Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous, et encore une très bonne année puisqu'on vient de rentrer dans la nouvelle an après les fêtes, parce qu'on considère que les fêtes sont, c'est vrai que c'est le début de l'année, mais on est dans une autre ambiance. Là, on commence à rentrer dans un monde, dans une année sans fêtes, ça veut dire des périodes plutôt normales, plutôt actives. Donc les fêtes sont derrière nous et on est vraiment au début de l'année. Et donc comme on a l'habitude dans la communauté juive de commencer la Torah depuis le début, tout de suite après les fêtes, cette année on a commencé vraiment le lendemain de la fête, puisque la fête était vendredi, donc la fête de Simchat Torah, et on a lu la dernière de Parasha de la Torah, celle qui s'appelle Vezot HaBeracha. Et le lendemain, Shabbat, on a commencé la parasha Bereshit. Bereshit, donc, c'est la première parasha de la Torah. Et d'ailleurs, c'est très étrange que cette parasha, qu'elle est très compliquée, avec beaucoup de détails, on a besoin de temps pour la étudier, parce qu'on a l'habitude, pas seulement de lire la Torah dans les synagogues, mais aussi étudier pendant la semaine. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très important pour plusieurs choses. D'étudier, puisque la semaine, il y a 7 jours, et donc la Torah aussi, la parasha aussi, elle est partagée en 7 jours. Et c'est bien d'étudier la première partie, le premier jour, la deuxième partie, le deuxième jour, etc. avec Rashi, parce qu'une étude avec Rashi, c'est une étude qui nous explique. Sans Rashi, on ne comprend pas, et parfois, on comprend contre, même opposé à la vérité. Donc, chaque jour, on étudie. Donc, pendant une semaine, on étudie la parasha. Mais cette fois-ci, avec la parasha Bereshit, on n'avait pas le temps d'étudier, puisqu'on fait toute cette étude les jours même de samedi ou même vendredi, mais on n'a pas une semaine entière, et surtout que c'est une parasha compliquée, et qu'on aurait dû avoir plus de temps pour ça. On parle de la création du monde, de cette période tout au début. Mais, en tout cas, on a commencé, donc, comme on a dit, c'est Shabbat, on a déjà lu la parasha Bereshit, et là, voici, on est dans la deuxième parasha de la Torah, et là, par contre, on a une semaine pour l'étudier, la parasha de Noach, la parasha des déluges et d'autres détails. Et c'est intéressant aussi que la parasha, les deux premiers parashiotes, c'est des parashas plutôt mondiales qui parlent du monde avant le début du peuple juif, donc on n'a pas encore le peuple juif. Le peuple juif et les lois, bien sûr, pour le peuple juif commencent à la fin de notre parasha et plutôt au début de la parasha de la semaine prochaine, où en fait déjà à la fin de notre parasha, on trouve notre patriarche, le premier des patriarches, Abraham, donc sa naissance, et le début de sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est que la parasha de la semaine prochaine commence par la vie d'Abraham à l'âge de 75 ans. Et donc, dans notre parasha, qu'on est dans les premiers 75 ans d'Abraham, la Torah parle presque pas. Et c'est intéressant, peut-être on aura le temps de parler de ça la semaine prochaine, mais on considère que le début du judaïsme, c'est pas depuis la naissance d'Abraham, mais depuis le début de la parasha de la semaine prochaine, où Abraham il fait quelque chose d'exceptionnel, Lech Lecha, il commence à marcher, mais on verra ça. Pour le moment, on n'est pas encore là, on est dans la parasha Noach, où c'est plutôt la vision mondiale du monde avant que le peuple juif pénètre dans ce monde. Donc alors, on a quelque chose qui se répète dans la parasha de Bereshit et la parasha de Noach, car dans la parasha Bereshit, Il y a la création du monde, il y a des détails. D'ailleurs, on va, si Dieu veut, commencer une autre émission parallèle qui on va parler de ces parachas qui a besoin de beaucoup d'attention. À l'époque, je fais avec mon ami Monsieur Akmoun. Pendant des années, on a fait les 7 jours de la création chaque semaine. On va reprendre d'une autre manière, si tu veux. Mais en tout cas, ces deux parachutes parlent de la création du monde. La première parle vraiment de la création du monde et les premières 1000 quelques années, 1500 ans à peu près. Et la deuxième parle de la suite, donc la destruction du monde par le déluge et la reconstruction du monde. Donc on recommence le monde depuis le début. Et donc, ils ressemblent parce que les deux, on voit cette notion de reconstruire le monde. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et la Torah ne nous parle pas. Il y avait des catastrophes comme des belles choses que la Torah ne nous parle pas. Si la Torah ne nous parle pas, ça veut dire que finalement, on n'a pas un message pour notre vie à nous aujourd'hui, un message très très fort pour nous, donc c'est pour ça que la Torah ne nous parle pas. Par contre, la paracha de Noach, c'est une paracha exceptionnelle. Non seulement que la Torah nous raconte une histoire, l'histoire du déluge, mais la Torah nous parle avec beaucoup de détails. Ce qu'on ne trouve pas, ou presque pas dans la Torah, que la Torah nous rentre dans les détails. Par exemple, à quelle date s'est passé le début du déluge? À quelle date s'arrêtait le déluge et à quelle date se passait chaque étape, en fait, pas chaque étape, mais quelques étapes importantes. C'est très intéressant. Ou bien comme les précisions de comment était l'arche, combien elle était large, combien elle était longue, combien était haut, et aussi de profondeur. L'arche était dans l'eau, etc., etc., des détails qu'on ne trouve pas ailleurs. Et dans d'autres domaines, même la sortie de l'Égypte, il n'y a pas de détails. En fait, il y a pas mal de détails, mais il n'y a pas aussi autant de détails comme ici. Comme on a dit, la précision de la date. On va choisir, il y a deux opinions. Qu'est-ce que c'est cette date? Mais on va choisir l'opinion la plus répandue. Que le début du déluge était le 17 Cheshvan, donc le mois qu'on va rentrer là, 17 Cheshvan, et la fin du déluge était le 27 Cheshvan, le 27 Cheshvan. Donc c'était une année lunaire, selon ce compte de l'année lunaire, parce qu'on compte selon la lune, 29 ou 30 jours par mois, en fait, à peu près 29 et demi et quelque chose. Donc, ça fait qu'à peu près, on compte ici le mois lunaire, mais l'année était solaire. Donc, alors, entre les 17 Cheshvan et les 27 Cheshvan, il y a 365 jours, donc une année solaire, puisqu'il y a une différence entre l'année lunaire et l'année solaire d'à peu près 11 jours. Donc, alors, c'est pour ça qu'il y a cet rattrapage. En tout cas, ça, c'est intéressant que la Torah elle précise. Et s'il y a cette paracha, tout d'abord que la Torah nous raconte, il y a beaucoup de choses que la Torah ne raconte pas. C'est vrai que le déluge, c'est quand même une histoire importante, mais la Torah ne raconte pas toutes les histoires importantes, sauf s'il y a un message très important pour nous aujourd'hui. Donc, alors, on va essayer de comprendre le message pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ça, de cette idée de déluge et après le déluge. Alors, c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'on est dans un monde sans one way, comme on dit. Ça veut dire, hein, il n'y a pas d'issue, on ne peut pas revenir en arrière, on est dans un monde compliqué. Et il y a des gens qui ont une vision très pessimiste du monde, et peut-être ils ont raison, mais ils ont tort quand même. Parce que visiblement, il y a beaucoup de problèmes et on ne voit pas comment on va s'en sortir. Et ça, c'était l'époque des déluges. Et donc, il est marqué dans la Torah que Dieu, il a créé un monde. Dieu, il avait un but dans ce monde. Et là, une catastrophe, les gens ne suivent pas du tout. Et au contraire, ça devient un monde catastrophique. Un monde de vol, de violence et d'autres problèmes. Donc, alors Dieu, il dit, je ne vais pas à ce monde, je vais détruire ce monde. Et là, les détails, vous pouvez voir à la fin de Parashat Bereshit, c'est très intéressant, il y a d'autres détails. Donc, imaginez-vous un monde que de vol, que de viol, que de tueurs. Alors, on ne veut pas, ce n'est pas notre monde, ce n'est pas le monde qu'on espère, ce n'est pas un monde qu'on peut vivre dedans. Donc, Dieu, il détruit ce monde. Et ensuite, il y a les déluges. Et d'ailleurs, lorsque Dieu il détruit le monde, il utilise une phrase et il dit « Qui yetzer leva Adam ra min erov » pas tout à fait, mais c'est à peu près ça. Ça veut dire que l'homme, il est mauvais depuis sa naissance. Ça veut dire qu'il est mauvais. Donc, rien à faire avec lui. Ensuite, il y a les déluges. Et les déluges détruisent presque toute l'humanité, sauf quelques personnes qui étaient choisies, donc Noé, Noach, avec ses enfants et leurs femmes, bien sûr. Et ensuite, on connaît bien l'histoire des animaux qui sont venus par couple. Certains animaux, c'était un couple de deux, et certains, c'était 7 ou 14 selon l'opinion. Mais en tout cas, les animaux, en tout cas, on ne va pas rentrer là-dedans. Il y a des représentants de chaque animal dans l'arche. Donc, on a bien les champs. Les chats, les rats, il manquait plus personne. Les chats, les rats, les éléphants, en fait, il y a un champ des enfants comme ça. Et bien, ensuite, il y avait les déluges qui a duré, comme on a dit tout à l'heure, 40 jours de pluie, encore 150 jours de montée des flux et de l'eau. Et ensuite, ça commençait à descendre. La Torah nous rentre dans les détails. Et jusqu'à le moment où la terre était sec déjà, et ça durait 365 où ils ont sorti de l'arche noire tous ses habitants, tous les habitants de l'arche. Et là, à ce moment-là, à un moment donné, Dieu il promet à Noach qu'il ne va plus détruire le monde. Il fait même un signe. Donc, tout d'abord, il fait une alliance. Non seulement qu'il promet, il promet avec une alliance. Ça veut dire que c'est une promesse forte qu'on peut compter dessus. Il ne va plus détruire le monde. Et ensuite, Noir, quand même, il hésite. Et Hachem lui donne un signe. Tu vois, ce signe va te rappeler que je ne vais plus détruire le monde. C'est quoi le signe? C'est l'arc-en-ciel. Et comme on explique, l'arc-en-ciel, même si c'est quelque chose de naturel, mais cette même nature était renouvelée à ce moment. Bien, ça aussi, c'est une question qu'on faut peut-être abattre à part. Ce que la Torah et la science, les différences que parfois on trouve, mais en tout cas, pas cette fois-ci, on va parler du fait qu'il est marqué dans la Torah qu'à partir de là, l'arc-en-ciel a apparu. Il y avait, avant, il n'était pas existé, et là, ça a apparu. Et donc, Dieu, il donne un signe, tu vois, cet signe, donc ça va te rappeler que même au moment où je suis en colère, même au moment où il y a des nuages qui représentent aussi quelque chose, ça ne va pas, c'est noir, c'est sombre. Même à ce moment, je veux voir cet arc-en-ciel et je ne veux pas détruire le monde. Il faut comprendre le rapport entre les deux choses. Oui, bien sûr, parfois je fais un signe, je vais dire à quelqu'un, tu vois, et je te promets telle et telle chose, je peux faire n'importe quel signe. Il n'y a pas forcément un rapport entre les signes et le sujet. Mais ici, selon la Chassidut et la Kabbale, il y a un rapport entre les deux, ce qu'on va voir après. Encore quelque chose de très intéressant. Et là aussi, on a un problème entre la Torah et la science. En fait, on n'a pas un problème. On peut imaginer un problème, mais aussi ces problèmes sont résolus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres entre la Torah et la science qui expliquent pas mal de choses. On va toucher juste le minimum. Donc, dans la paracha Bereshit, la Torah nous raconte que la vie humaine était très très longue. On parle de chiffres qu'on n'imagine même pas. Donc, la vie, les moyens Delavé, à l'époque, était de 900 ans. Comment ça va avec la science? Juste dire, pour ne pas rentrer là-dedans, qu'effectivement, la nature a changé. On n'a pas de traces, mais la nature a changé au début. Jusque le déluge, la vie était très longue. Ensuite, dans notre paracha, lorsque la Torah nous parle comment on a passé d'une génération à l'autre entre Noach et Abraham, donc il y a 10 générations, la Torah nous raconte comment on voit clairement combien ils ont vécu. Et là, on va voir que la vie commence après le déluge à perdre de vitesse, à tel point que ça, à l'époque d'Abraham, à l'âge de 100 ans, c'était quelque chose d'inimaginable qu'on peut avoir un enfant. Donc 10 générations après, c'était une autre vie. Et 10 générations après, comme on le connaît, 100 pour Abraham, 90 pour Sarah, c'était une autre période où bien l'homme était déjà affaibli. Donc alors, certainement qu'il y a un rapport entre l'idée qu'avant le déluge, la vie était forte, et après le déluge, la vie était faible, donc la vie déjà est longue, etc. Et la vie est moins longue, etc. Alors, donc on va revenir à la question principale, si on peut dire, qu'est-ce qu'on fait avec un monde qu'on a l'impression qu'il se dégrade dans tous les domaines? Ça ne va pas du tout. Donc alors, on a 2 réactions dans nos parachutes. Dans la paracha Bereshit, Dieu il dit, un monde comme ça, je ne le veux pas. Donc il détruit. Et ensuite, il promet qu'il ne va plus détruire le monde. Le problème, c'est qu'est-ce qui a changé? Si on trouve que le monde est mauvais, il faut le détruire, on n'a pas le choix parce que c'est invivable. Alors, qu'est-ce qui a changé avec le déluge? Que là, d'un coup, on va dire non. Non seulement que je vais laisser le monde, mais je te promets que peut-être il y aura des catastrophes par-ci et par-là, mais le monde, il ne va pas détruire. Et il y a d'autres détails qui montrent que le monde, il va rester relativement stable. Là aussi, c'est un sujet intéressant. Mais en tout cas, c'est quoi ce qui a fait le changement avant le déluge? Qu'il faut détruire un monde, et après le déluge, que non, on ne va pas détruire le monde. Le monde, il va rester éternellement, en fait, éternellement en tout cas. Et oui, même si qu'il y aura des problèmes. Alors, c'est quoi qui a changé? Encore quelque chose, la même phrase, elle est marquée dans la Chassidut, c'est très intéressant. Que les mêmes phrases que Dieu utilise pour la raison, pour donner une raison à détruire le monde, il l'utilise pour ne pas détruire le monde. Ça veut dire à peu près la même phrase. La même phrase qu'il dit que je vais détruire le monde parce qu'il est mauvais depuis sa naissance. Donc, il faut le détruire parce que de toute façon, il est mauvais, même depuis la naissance. Alors, il l'utilise pour ne pas détruire le monde en disant je ne vais pas le détruire. Parce que c'est pas de sa faute. Je rajoute, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute parce qu'il est mauvais depuis sa naissance. Comment on peut utiliser les mêmes raisons pour le oui et pour le non? Alors, sur cette question, il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs manières, mais là, on va utiliser aujourd'hui surtout une façon. Alors, il est marqué dans la Chassidut, ensuite, le rabbi de Lubavitch développe cette idée dans plusieurs endroits, qu'il y a 2 méthodes. Dieu, il a utilisé une méthode avant le déluge, et ensuite il a utilisé une autre méthode après le déluge. Alors, la première méthode, c'est on va prendre l'exemple, ce qu'on utilise souvent dans la Chassidut, entre un maître et ses élèves. Alors, il y a 2 manières comment le maître, il donne l'enseignement à ses élèves. L'enseignement et le renseignement à ses élèves. Il y a une manière que le maître, il parle et les élèves, ils écoutent. Ils écoutent. Alors, il y a une autre manière que le maître, il incite les enfants à trouver seul ce que le maître, il veut qu'ils trouvent. Donc, alors, dans la première méthode, c'est une méthode, c'est une bonne méthode, mais la deuxième, parfois, on considère que c'est une meilleure méthode. Ça veut dire que lorsque l'enfant lui-même, il trouve la réponse sur la question, et c'est pas seulement qu'il écoute la réponse. C'est bien parce que quelque part, la première méthode est mieux pour certaines raisons, parce qu'à ce moment-là, il avance peut-être plus vite. Mais d'une autre part, le fait même qu'il n'a pas trouvé tout seul, ce n'est pas des choses à lui, parfois. Par contre, lorsque l'enfant, il trouve, ou l'enfant, ou l'adulte, mais en tout cas l'élève, il trouve par lui-même, d'un coup, ça devient quelque chose à lui. On peut dire comme ça que, jusqu'à le déluge, Dieu il a créé un monde, comme il est marqué dans la Torah, qu'il était un monde bien, un monde complet. Mais il était complet du côté de Dieu, mais pas du côté de l'homme. L'homme, il a la possibilité de s'éloigner, de se dégrader. Et une fois qu'il se dégrade, il n'a pas beaucoup de possibilités de revenir en arrière. On peut prendre l'exemple, c'est un mauvais exemple, mais quand même c'est un exemple, de quelqu'un qui pénètre dans les problèmes des drogues ou d'autres problèmes qui ne le fait que dégrader. Donc alors, plus qu'il pénètre, plus qu'il pénètre, plus qu'il se dégrade, et il n'y a pas de chemin de retour. Il ne peut pas revenir en arrière. Et là aussi, ça c'était le monde avant le déluge. Ça veut dire que Dieu, il a donné beaucoup, mais l'homme, il n'a pas suivi. Donc il y avait un écart entre l'un et l'autre. Et à ce moment-là, l'homme, il s'est dégradé, et on ne peut pas trouver quelque chose de positif chez l'homme lui-même. Par contre, après le déluge, Dieu il a changé le système. Alors, bien sûr qu'on a des questions, pourquoi avant il a fait comme ça, après il a fait comme ça, mais c'est une question qu'on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais en tout cas, il est marqué que Dieu il a mené le déluge. Le déluge n'était pas seulement, comme il est marqué dans la Chassidut, il n'était pas seulement pour bénir, mais il y avait une notion de changer le système. Là aussi, il faut expliquer pourquoi là, le fait d'amener de l'eau, ça change le système. Alors, la chassidoute donne cette image de mikveh, de bain rituel, qu'elle a besoin d'une mesure de 40, et là aussi, le monde, ça durait 40. Bien, il faut expliquer ça, mais juste rester avec ce poids, qu'il y avait une sorte de changement radical dans le monde. Ça veut dire que le mauvais, il n'est pas aussi mauvais que ça. Ça veut dire qu'on a la possibilité de faire de mauvaises choses, mais il a donné cette possibilité que dans les plus mauvaises choses, il y a toujours une possibilité de se rattraper. Pour donner un exemple, comme on a dit tout à l'heure, il y a l'homme, il y a une personne, en fait, il y a une méthode de celui qui donne et celui qui reçoit. Alors, parfois, il y a un écart entre celui qui donne et celui qui reçoit. Pardon. Par contre, lorsqu'on arrive à trouver dans celui qui reçoit ce poids qu'il a en lui, ça veut dire qu'on révèle qu'en vérité, lui-même, il a ce poids. Ce n'est pas qu'on lui donne, on révèle quelque chose de positif en lui. Alors, à ce moment-là, on peut jouer avec ça, et ce poids positif peut être un trompe-poids pour cette personne qui n'a pas vu des choses négatives. J'essaie d'imaginer un exemple. Je pense qu'au niveau médical, il y a des choses, parfois on essaie de sauver un membre ou bien le corps, ou bien un membre de corps, ou quelque chose. Alors, il y a une manière d'amener quelque chose de l'extérieur. Il y a une autre manière de trouver quelque chose de positif dans les membres négatifs, trouver le positif et développer le positif. Et à ce moment-là, on sauve la maladie. Il me semble que on peut donner de différentes choses, de différentes maladies, mais aussi dans le corona, on a trouvé un petit peu ce système que la vaccination, qu'est-ce qu'elle a fait, il me semble. Dans la vaccination, on a trouvé cette idée qu'on a renforcé ce qu'on a dans notre anticorps qu'on a à l'intérieur de nous. Ce n'est pas qu'on nous a donné quelque chose, on a renforcé. Et à ce moment-là, une fois qu'on arrive à renforcer notre propre défense, alors à ce moment-là, on peut se battre contre toute chose qui vient de l'extérieur parce qu'on arrive à trouver le positif ou non. Et quelque part, c'est ça la différence entre avant et après. Quelqu'un qui est mauvais, on essaie de le changer. Mais c'est pas ce qu'on arrive à le changer. Il y a certains domaines où on peut lui donner, mais il ne reçoit pas. Il n'y a pas de contact. Par contre, si j'arrive à trouver en lui-même quelque chose que lui, il a, quelque chose de positif, et ensuite je le développe, à ce moment-là, c'est lui-même qui développe le positif qu'il a. Ce n'est pas que je lui donne. Il a seulement que je l'aide à développer ce qu'il a en lui. Alors à ce moment-là, il change. À ce moment-là, non seulement qu'il devient moins mauvais, encore plus, il peut influencer les autres. Donc ça, c'est l'idée. Et peut-être qu'il faut avoir d'autres exemples, j'espère que c'est clair. Donc alors là aussi, avant le déluge, la beauté de l'homme, si on peut dire comme ça, dépendait de Dieu. Et plus qu'il s'éloignait de Dieu, alors il s'éloignait. Donc alors, il est plus beau, il est mauvais, et on ne peut pas le récupérer. Après, Dieu il a donné une autre nature dans le monde où les personnes, la créature, elle a quelque chose de positif en elle-même. Seulement qu'il faut la trouver. Bien sûr qu'elle a besoin d'aide de l'extérieur, mais c'est une aide pour développer quelque chose de positif en lui. En gros, on peut dire comme ça, si on essaye de comprendre le rapport avec nous aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, quand il y a le monde qui est mauvais, alors il y a deux manières. On essaye de changer le monde, ou bien on essaye de trouver quelque chose de positif, et à partir de là, on travaille sur le positif. Il faut savoir qu'il y a quelque chose de positif en lui, seulement pour une raison ou pour une autre, il n'a pas développé jusque-là, mais il faut savoir que ça existe. Donc alors, à partir de là, il y a une idée comme ça, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire que la majorité du monde, il n'est pas mauvais par lui-même. Alors, il y a peut-être des poids très négatifs dans le monde, que là, malheureusement, on n'a pas le choix que détruire cette partie. Comme dans le cancer, parfois, il y a des mauvaises choses qu'on pour sauver une autre. Peut-être parce qu'on n'a pas su sauver, on n'était pas assez intelligent pour savoir sauver. Mais d'une façon générale, le monde entier, c'est comme ça qu'il faut avoir cette vision au maximum du monde, c'est qu'il a quelque chose de positif dans chaque individu, en tout cas presque chaque individu, et il faut absolument essayer de trouver le positif et travailler avec ce positif. Donc ça, c'est en quelques mots, je sais que cette idée a besoin encore de développement, donc ça c'est l'idée. Donc, à partir de là, on a cette vision dans le monde que même si qu'il est mauvais, mais il a un poids positif, ou il y a quelques poids positifs, ou même beaucoup de poids positifs qui n'étaient pas développés. Et donc, si aujourd'hui il est mauvais, c'est parce qu'on ne savait pas lui donner ce qu'il a. Mais le jour où on va savoir lui donner et développer, alors il va se développer parce qu'en lui-même, il y a quelque chose de positif. Et c'est ça, de là, on va revenir sur cette idée de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est quelque chose qui... Quel rapport? Alors, il est marqué aussi dans le Chassidut, mais encore une fois, lorsqu'on parle de certains domaines de Torah et de science, il faut avoir plus d'explications, mais on va rester plutôt avec cette idée. C'est qu'avant le déluge, comme on a dit, le monde était mauvais. Seulement que Dieu, il a éclairé. Alors, Dieu, il a éclairé, sans regarder s'il y a des mauvais et des biens. Donc alors, il avait une force, il avait une longue vie, mais d'une autre part, lui-même, il était mauvais. Après le déluge, Dieu il a changé le système et il a fait en sorte que chaque, en tout cas presque chaque personne, chaque chose de la nature, il a quelque chose de positif, seulement qu'il faut savoir développer. Et à ce moment-là, c'est ça le message de déluge. Pardon, c'est ça le message de arc-en-ciel. C'est pour ça que ça devient un signe que Dieu n'a plus besoin de détruire le monde, même s'il y a parfois par-ci et par-là des choses, mais il n'a pas besoin de détruire le monde pour recommencer. Parce qu'en vérité, dans l'humanité, il y a des bons. Donc c'est ça le message, c'est ça l'idée de arc-en-ciel. Parce que qu'est-ce que c'est l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, c'est on a les nuages, que normalement ça représente quelque chose de sombre. Et il y a le soleil qui passe par quelque part, par l'humidité, par l'eau. Et sur l'arc-en-ciel, sur le nuage, on voit l'arc-en-ciel. Ça veut dire que on voit pas directement le rayon du soleil, on voit comment le rayon du soleil vient et devient, donc en passage de l'eau, il se développe une sorte de lumière. Après, il y a des détails, mais l'idée générale, c'est que même sur les choses qui nous semblent sombres, on peut trouver sa lumière. Donc, c'est ça l'idée de l'arc-en-ciel. Ça veut dire que le soleil lui-même, on ne trouve pas les couleurs, les 7 couleurs, les 3 couleurs, les différentes manières de voir les choses, mais c'est une lumière simple. Mais en arrivant ici, en passant par certains schémas, ça devient des lumières en quelques couleurs. Et ça veut dire l'idée, le symbole de cette idée, c'est que même les mauvais, on trouve quelque chose de positif, et à partir de là, on peut travailler avec lui. En tout cas, ça c'est un petit peu le message de notre paracha qui est très important, comme on a dit tout à l'heure. C'est pas seulement une histoire de l'époque où on a parlé des choses de l'époque. C'est quelque chose qui est très important pour aujourd'hui, que parfois on est perdu devant un monde perdu, qu'il a perdu son identité. Et la vision chassidique, la vision de la Torah, c'est tout d'abord voir les choses d'une façon positive, ne pas être naïf et penser que tout va bien. Ça, on a déjà fait de ces fautes et on souffre jusqu'à aujourd'hui à cause de ces fautes. Mais de regarder avec des yeux naïfs, ne pas voir être naïf d'une part, mais en tout cas voir le positif dans chacun. Et à ce moment-là, dans la majorité en tout cas du monde, voir le positif. Et à ce moment-là, à partir du moment où je vois le positif, je sais comment réagir. Tout d'abord, j'ai un espoir en lui. Alors, c'est dangereux d'avoir un espoir en lui. Très souvent, on attend des gens qui disent « il y a quelqu'un qui a tué ». Mais il était fiché S, pourquoi on n'a rien fait, pourquoi on l'a laissé tranquille, ça dilemme, parce que d'une part, on doit croire à l'homme, mais d'une autre part, une fois qu'on a cru, on s'est trompé. Peut-être on ne s'est pas trompé, mais on n'a pas fait le nécessaire, ou bien ça peut être, on peut le voir de différentes manières. Et à ce moment-là, on approche à ce qu'il a libéré. Pourquoi ? On l'a libéré puisqu'on a vu qu'il y a un risque. Mais c'est ça le dilemme qu'on a, que d'une part on veut croire à l'homme, d'une autre part, quand il est arrivé quelque chose, on dit pourquoi vous avez cru à lui. Mais ça c'est un dilemme. D'une façon générale, plus générale, il y a des bons chez chacun, en tout cas presque. Et il faut plutôt développer les bons. En même temps, il ne faut pas être naïf quand ça ne va pas. Il faut parfois faire autrement, mais la vision globale du monde, c'est qu'il y a des bons, et même quand on est très pessimiste, il ne faut pas regarder comme ça, parce qu'il y a quelque chose, là on le voit dans l'esprit juif, on le voit, que même parfois quand on est très pessimiste par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, il y a des bons qui flottent d'un coup, qu'on ne sait pas d'où ça, mais nous en vérité on sait, parce que la profondeur est bonne, seulement qu'il faut savoir comment jouer sur ces parties bonnes. En tout cas, ça c'est un des messages de notre paracha. Et c'est pour ça que cette vision, c'est une vision générale, comment on s'occupe de nos enfants, comment on s'occupe de notre entourage, comment on réagit devant notre entourage. Et au lieu de voir d'une façon négative que c'est naturel quelque part, il faut chercher le positif qu'il y a de toute façon et la développer, ce qui n'est pas facile, mais en tout cas, c'est ça la manière comment il faut changer et sauver le monde. Et ça aussi, la vision messianique, on parle tant que d'une part on nous parle, c'est dit par notre rabbi, et on voit beaucoup de plus en plus clair et comment les choses sont vraies. C'est que d'une part on est dans un monde catastrophique, d'une autre part on parle d'une idée messianique, que le monde il avance. Parce que d'une part effectivement le monde il est catastrophique, mais le poids positif est là et il se développe plus que jamais, seulement que ça dépend de nous de savoir utiliser ce poids positif et ramener les personnes à leur origine, à leur vérité. En tout cas, ça c'est une petite idée, même si c'est beaucoup plus large cette idée, il faut développer, mais en tout cas ça c'est quelques poids de ce qu'on peut apprendre de notre paracha. Encore une fois, une très bonne année, une année joyeuse, une année de paix, une année de Mashiach. Merci pour votre écoute, à la semaine prochaine.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.